This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà messieurs.
Oui, mais que, comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles.
Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Ah, aujourd'hui, je suis content. De toute façon, je ne suis jamais malheureux parce qu'on est toujours bien reçu chez un vigneron. Aujourd'hui, nous sommes à la frontière entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Nous sommes dans l'un des terroirs, des territoires, des villages. Alors, ils se battent un peu en duel pour savoir à qui appartient le Haut-Königsbourg. Orchulaire dit que c'est eux, Saint-Hippolyte dit que c'est eux. Il appartient à l'Alsace, comme ça on met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, nous sommes donc à Saint-Hippolyte, au domaine Müller-Kéberlé. David et Marianne ont repris en 2012. Alors là, je regarde le David pour éviter que je dise trop de conneries. C'est un domaine familial qui a 27 hectares.
C'est ça.
Lancé plus de 300 arbres dans les vignes.
Alors, on a un peu plus que 300 arbres.
Même depuis, il y en a un petit peu plus.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Salut David.
Salut.
Comment tu vas?
Très très bien et toi?
Ça va. Bon, on a déjà passé la matinée ensemble, on a mangé une petite pizza. Oui, ouais. c'est toujours plus agréable quand on boit un petit peu avant. Hein. Après,
exactement.
On aime les bonnes choses. Comment est-ce que tu as commencé l'année?
J'ai commencé l'année tranquillement.
Ouais.
On a fait un petit chantier plantation d'arbres, donc ouais. Sur une parcelle. Donc ouais. Une nouvelle parcelle conduite en agroforesterie. Dans la même conception que les autres parcelles.
Ouais.
Et puis sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelques commandes et puis on commence à tailler dans les vignes, quoi. Mm-hmm. Donc tout va bien.
L'hiver, c'est le taillage.
C'est ça. C'est quand même. J'aime beaucoup l'hiver parce que en hiver, on est quand même moins stressé par la végétation, donc on est un peu posé. On a le temps de se vider la tête dans les vignes justement quand on taille.
Ça fait prend de l'énergie pour attaquer le palissage, c'est ce qui est
ouais,
après.
C'est ça, ouais, le gros boom de l'été. Quoi.
Bon, surtout qu'avec 27 hectares, je pense que tu dois bien tamiser.
Exactement. Ouais,
toutes
ouais.
Les 27 hectares.
C'est
justement, ce qui est un peu intéressant chez toi, c'est que tu as vraiment cet état d'esprit au niveau de la vigne. Le bien-être de la vigne est très important pour toi.
Exactement.
Ouais. Le respect de l'environnement est très important pour toi. On peut dire que la biodiversité, que ce soit faune ou flore, c'est un marqueur important aussi d'une bonne santé de la vigne. Hein.
C'est ça. Ouais.
Donc, pour moi, une vigne en bonne santé, c'est un vin en bonne santé.
C'est ça.
Et donc, un libre buveur moins pollué,
c'est ça, et surtout Nous, on aime bien boire nos vins, donc c'est toujours plaisant de se dire qu'on se pollue pas nous-mêmes, quoi.
Du coup, on parlait. Alors, on va peut-être parler d'abord de ton parcours, un petit peu d'où tu viens, où tu as travaillé, comment tu as fait tes premières armes, aussi de ton domaine, hein, parce que c'est un domaine familial, je crois, qui s'appelait le vieux pressoir.
Le vieux pressoir à l'époque, ouais.
Ok, et il y en a deux, je crois, des vieux pressoirs. Il y en a pas un.
À Boulogne-Berg, Rouffach.
À Rouffach, ouais.
C'est ça.
Je te laisse me parler de l'histoire de ton domaine, quand est-ce qu'il a été créé, et puis jusqu'à ton arrivée à toi en 2012.
Moi, je suis sur le domaine depuis 2004.
2004.
Et j'ai, on va dire, commencé vraiment à vinifier, à m'occuper un peu de tout en 2012.
Ok.
Et donc récupérer le domaine en 2014.
Ok.
Voilà. Donc en fait, en 2004, j'étais en apprentissage et j'ai fait mon apprentissage sur le domaine. Et
qui était géré par le grand-père.
Qui était géré par le grand-père, par ma mère et mon oncle. Et en fait, on était sur une culture qui était, on va dire, intensive, quoi. Un peu chimique, enfin, ouais, sans âme, comme tout le monde, un peu, quoi. Vraiment, il fallait faire comme tout le monde. On pouvait pas trop vraiment mettre notre émotion, notre âme dans un vin ou dans la vigne.
Le monde d'avant en Alsace.
Ouais, c'était. Ennuyant, le matin on se levait, on savait que ça allait être comme tous les ans, comme tous les jours, enfin, pas trop d'émotion, quoi. Et puis petit à petit, moi j'ai changé tout mon vignoble, en fait, pour que la vigne déjà soit en meilleure santé. Donc de base, j'ai pas tout de suite commencé à planter des arbres, je savais pas trop comment faire. J'étais un peu bridé là-dedans, j'avais envie, hein, vraiment de voir autre chose que de la vigne, je m'y sentais pas bien autour que de ça, quoi. Je voyais déjà qu'il y avait un déséquilibre, un problème, quoi. Et puis on m'a laissé quand même reconduire le domaine donc en bio et en biodynamie parce que tout ce qui était chimique, j'adhérais pas trop à tout ça, quoi. Enfin pas du tout même. Et puis après petit à petit, j'ai commencé à vinifier. Enfin voilà, on m'a laissé et on était tellement en désaccord avec la famille quelque part. Qu'ils ont fini quand même par me céder leur part. J'ai pu racheter les parts du domaine donc en 2014. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai pu vraiment me développer et aller plus vite. Parce que du coup, j'ai pu prendre un peu plus de risques, m'autoriser à faire beaucoup plus de choses parce que je n'avais pas besoin de demander à qui que ce soit.
Donc, quand tu parles de désaccord, ils étaient liés à quoi, les désaccords ?
C'était...
La façon de faire.
Vu que c'était une méthode un peu à l'ancienne, déjà, c'était toujours très financier. Mes essais, ils étaient toujours très limités parce qu'il fallait pas faire ça partout. Moi, quand je fais des essais aujourd'hui, je suis un peu. J'aime bien faire sur des grosses parties. J'aime pas faire des essais sur une petite parcelle. Pour moi, ça parle pas. J'aime bien que ce soit très vaste. Et surtout, quand j'ai une idée, j'y crois, donc je le fais sur quasiment l'ensemble du domaine en général, quoi. Et c'est vrai que avant ça, c'était pas possible pour moi et. Et donc, j'avais un peu du mal à avancer, surtout dans l'idée de l'agroforesterie. Ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Alors, on a planté des arbres, c'était toujours autour des parcelles. On a planté des fruitiers parce qu'on y voyait un intérêt d'aller cueillir des fruits. C'était pas du tout pour la vigne ou pour la biodiversité. C'était toujours par rapport à un revenu derrière. En tant que paysan, on a toujours ce côté-là de se dire, si on plante un truc, il faut que ça paye, quoi.
Ça reste une entreprise. Hein.
Oui. Mais voilà, c'était... Bien sûr, on était dans cet état d'esprit, quoi. Et donc, la seule chose que j'avais le droit de faire, c'était de planter des fruitiers à la place d'un arbre. D'un pied de vigne, pardon.
Oui.
Et donc, on a commencé par ça. Mais c'est vrai que là, du coup, on ne parle pas d'agroforesterie. Ça reste un arbre fruitier conduit comme la vigne. Il apporte peu, à part au niveau du système racinaire ou peut-être d'une fleur qui n'existait pas avant, quoi. Donc ça apporte un peu de diversité, on va dire, mais un arbre conduit comme la vigne apporte peu, quoi.
Donc toi, tu considères la vigne non pas comme un jardin, mais comme une forêt, c'est-à-dire que tu interviens quasiment pas ou très peu ou le moins possible.
Alors ouais, j'essaie d'intervenir le moins possible. Alors la vigne, elle a quand même besoin d'être conduite pour avoir un maximum d'exposition de la lumière. C'est bizarre ce que je dis parce que je plante des arbres, donc ils vont dire « Attends, le gars, il plante des arbres et il fait de l'ombre sur sa parcelle et derrière, il dit comme quoi il faut faire de la lumière à la vigne. » Mais en fait, on a un plan de palissage qui a été fait à l'époque Pour la production, pour faciliter en fait la tenue du raisin et pour produire beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on réagit autrement par rapport à ce plan de palissage, c'est qu'il faut l'exposer un maximum à la lumière, hein, donc on évite qu'il y ait des trous dans ce plan de palissage, donc il faut conduire la vigne d'une autre manière. Et donc là, il y a un gros travail qui est fait donc, sur la taille, sur les bourgeonnages. Donc là, c'est vrai que la vigne, quelque part, on ne la laisse pas trop tranquille, parce qu'il y a une taille qui est effectuée tous les ans. Il y a un ébourgeonnage qui est fait tous les ans. Et donc, c'est un gros travail sur la vigne, on va dire. On ne la laisse pas faire toute seule non plus. On la conduit quand même d'une certaine manière. Puis derrière, en fait, par rapport à l'arbre qu'on plante, dans l'idée, c'est justement éviter les chocs climatiques. Donc, les gros écarts de température, on passe de 20 degrés à 40 degrés le lendemain. En fait, la vigne a besoin en fait, d'éviter ces chocs-là, quoi. Que ce soit même le froid, hein, les gelées blanches en hiver, au printemps, pardon, on pourrait peut-être les éviter avec l'arbre. L'arbre, en fait, juste avec la sève qui véhicule, va augmenter de 2 degrés la parcelle, quoi. Donc, des fois, c'est super intéressant. 2 degrés, ça peut sauver une parcelle. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que, tout doucement, on arrive, en fait, à comprendre un peu plus et à naturellement à équilibrer la vigne. Sans utiliser de produits, parce que bon, aller me dire qu'un jour je vais lui brûler des bougies pour éviter que ça gèle dans mes vignes, enfin je le ferai pas quoi, mais je trouve ça dingue que ce soit encore autorisé quoi.
Comment t'es arrivé à l'agroforesterie ?
Alors l'agroforesterie, j'y suis arrivé tout simplement parce que j'ai toujours planté des arbres, j'ai toujours semé des arbres chez moi quand j'étais gamin. J'ai toujours cueilli plein de graines. J'adorais voir pousser les plantes. En général, peu importe le végétal, j'ai toujours été passionné par ça. Et puis avec mon grand-père, j'adorais me balader dans la nature. Et puis, on était très observateurs de tout ce qui se passait, quoi. Même si lui était moins observateur que moi. Quand je disais des choses, il disait « Ouais, bon, c'est pas trop important, mais alors que si ». Et en fait, petit à petit, toutes ces choses que je voyais dans la nature, j'ai voulu le voir en fait dans mes parcelles. C'est simple, avant moi, je me baladais dans mes vignes, c'était un désert de vignes. Je sais même pas. C'était vraiment.
Il n'y avait pas de vie en fait.
Comment ?
Il n'y avait plus de vie.
Non, plus du tout. Alors bon, ça fait toujours rire quand quelqu'un met une photo d'un nid dans une vigne, d'un nid d'oiseau, quoi, parce que ça, c'est facile. Hein. Les oiseaux, il faut bien qu'ils se nichent quelque part, quoi. Mm. Il y en a quand même encore des oiseaux, hein. C'est facile à dire, c'est vivant chez moi parce qu'il y a un nid d'oiseaux, quoi. Donc ça, et nous en fait, enfin moi, je cherche à avoir plus qu'un nid d'oiseaux, quoi. Il faut de tout, quoi. Et du coup, là, je suis dans une dynamique qui est encore qu'à ses débuts parce que voilà, on commence à peine, quoi. J'ai plein d'idées, je suis pas le seul à avoir plein d'idées. Et du coup, je pense qu'à l'avenir, ça va être des parcelles de vignes, mais qui produiront tellement d'autres choses, quoi.
C'est un peu la force des Alsaciens, c'est que vous travaillez ensemble, vous réfléchissez ensemble.
Carrément. Déjà, c'est ça, c'est chacun a ses idées et on verra ce qui fonctionne à un moment donné, quoi. Et puis on se mettra d'accord entre nous à l'avenir, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on fait, enfin voilà, quoi.
Je trouve ça sain. Moi, je trouve ça très sain.
Ouais.
Alors, tu parlais de tes 23 hectares, ça fait beaucoup, non ?
Comment ?
On parlait de tes 23 hectares.
Ouais.
Ça fait beaucoup, non ?
Beaucoup, oui. Alors, c'est 27.
27, autant pour moi.
Ouais, c'est pas grave. Mais oui, ça fait beaucoup.
Alors, est-ce qu'on peut faire de... Alors, je te titille un petit peu, hein, mm-hmm. parce que je connais tes vins et c'est pour ça que je me permets. Mais est-ce qu'on peut faire de la biodynamie et de l'agriculture biologique de qualité avec 27 hectares ?
Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un peu mon gros problème. Je me suis dit, jamais de la vie, je vais réussir à faire toutes mes préparations biodynamiques et pouvoir être précis sur toutes mes parcelles. Je ne savais pas trop comment faire. C'était assez flou dans ma tête. Déjà, j'avais un peu du mal à comprendre la biodynamie et puis j'ai fait pas mal de formations quoi, là-dedans. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas par rapport à la surface que ce qui compte, c'est en fait d'être organisé dans sa tête et à un moment donné de se dire c'est ce jour-là je vais poser mes préparations. C'est surtout d'être organisé. Et nous en fait on a une chance, c'est qu'on a 27 hectares peut-être, mais on a très très peu de parcelles. C'est des grosses grosses parcelles.
D'accord.
Et donc c'est simple, moi pour dynamiser 10 hectares, il me faut 2 heures. Quoi. Donc
t'as tout quasiment au même endroit.
Bah en fait la parcelle la plus lointaine est à 2 km.
Tu fais une randonnée entre chaque parcelle comme certains.
Non, j'ai tout qui est localisé au même endroit quoi. Donc moi ma biodynamique, en fait je suis seul à faire mes préparations biodynamiques, donc je suis seul à faire même ma 500, ma 501 et les préparations pareilles et puis ça marche très bien quoi. Puis après, par rapport au sol, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, le bio, ça consomme beaucoup plus parce qu'il faut labourer. » Bah nous, en fait, on laboure plus. Donc, tout est en couverture. Donc,
tu fais des semis aussi ?
Que des engrais verts, ouais. Semis directs. Mmh. Et donc, vu qu'on fait du semis direct, on enrobe les graines. Donc, on fait un enrobage maison organique. Et donc, les graines, elles poussent même dans l'herbe. Ça, c'est incroyable. Et puis, les bonnes années, les jolis printemps, l'engrais vert dépasse la vigne. On voit même plus la vigne. Mmh. C'est génial. Donc, ça peut aussi éviter les soucis de gelée, quoi.
J'appelle ça l'effet Schlegel.
Ouais, c'est ça. Mais c'est, voilà, c'est.
Tu rejoues à cache-cache dans les vignes.
C'est ça.
Si on ne te trouve pas. Mais c'était plutôt ça. Moi, j'ai connu ça quand t'étais plus jeune. Donc, c'est bien. Ado, c'est bien d'avoir des hautes herbes.
Ouais.
T'as une petite copine comme
ouais,
ça.
Ouais, grave.
C'est plutôt agréable. Oui. Ben justement, on parlait de tes 27 hectares. Parle-moi des terroirs. C'est important que nous, on parle des terroirs, les lieux dits. Alors, peut-être pas toutes les cités les plus importantes. Je sais aussi que tu as un grand cru ou deux.
Alors, j'ai un grand cru.
Un grand cru.
Le grand cru à Roderne, le Glockelberg.
Ouais.
Et donc là, on est sur des granites et grès roses.
Mmh.
Donc, le sol vraiment très, très sableux. C'est vraiment très, très fin comme ça.
Et tu me disais que c'était pas le même granit qu'Adambar. C'est ça ?
Non, c'est différent.
Okay.
C'est plus du granit en.
Donc, on a deux grands crus sur le granit. Mais granit totalement différent.
C'est différent.
Et donc, ce serait une idée un jour de se dire, sur granit, on fait une dégustation sur du granit.
Ouais.
Et en fait, on ne trouverait pas le même marqueur, Dambar ou Chervillers.
Alors, on serait toujours sur des vins avec une certaine verticalité,
oui.
Mais quand même avec une autre âme. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, le climat changerait, l'exposition. Mmh. Et puis, le terroir fait beaucoup.
Et pourtant, on n'est pas loin. C'est quoi, c'est 20 bornes ? 20 bornes,
ouais, on n'est pas loin, ouais, c'est sûr. Mais les vins n'ont rien à voir, ça, c'est sûr. Mmh.
C'est top.
Ouais.
Donc on a un grand cru. Ensuite, tu as le Lenzberg.
Le Lagenberg.
Lagenberg.
Ouais, donc Lagenberg, c'est la longue colline. Donc on est à 10 hectares.
Mmh.
Donc ça, c'est le projet de mon arrière-grand-père, de mon grand-père. À l'époque, en fait, c'était des vignes qui montaient jusqu'en haut de la colline, qui étaient plantées dans la verticalité. Et en fait, il y a eu des gros orages et tout est parti. Vu que tout était labouré, tout est parti en érosion quoi, après les grosses pluies. Et donc, ils ont décidé, en fait, de plus planter de vignes. Donc, ça a été maintenu en verger.
Mmh.
Puis, en fait, les vergers, c'était assez loin, quand même, on va dire, du village. Assez compliqué à entretenir, parce qu'il y avait des fortes pentes. Vu que c'est des sols acides, il n'y avait que de la ronce qui poussait. Beaucoup, beaucoup d'entretien. Donc, ça a été un peu laissé à l'abandon, à un moment donné. Et donc, mon grand-père a décidé d'acheter petit à petit les parcelles. Il y avait quand même plus de 300 parcelles à acheter, quoi. Et donc, c'était échangé contre des pommes de terre, des fraises. Parce que mon grand-père, il avait un jardin énorme. Qui
le troc des anciens.
Ouais, ouais, trop facile, quoi. Mais ouais, ça marchait comme ça, quoi.
Mmh.
Et puis...
C'est pas mal, finalement.
Ouais, grave, ouais. Et puis même, les gens étaient contents qu'ils reprennent ça en main. Parce que c'est vrai que la colline n'avait plus vraiment de visuel, quoi. C'était, vu qu'il n'y a pas de sol, les arbres ne poussaient pas. C'était que de la ronce, que des épineux, quoi. Donc, pas trop esthétique. Et puis, de se dire qu'un jour, quelqu'un y replante de la vigne, tout le monde était en accord. Donc, il y avait une belle dynamique. Donc, il a pu quand même avancer très vite dans son projet. Donc, d'abord une première partie de 3 hectares, puis une autre de 3 hectares qui a pu être plantée dans les années 60. Et puis, mon grand-père a pu finaliser la troisième partie de 3 hectares dans les années en 92.
Mmh.
Et puis depuis, donc on a cette parcelle qui fait maintenant 10 hectares. Quoi. On dit 10 hectares, hein, ça reste quand même de la parcelle en terrasse. Quoi. Tout était terrassé parce qu'il y a des endroits qui étaient tellement pentueux.
Donc tu remets des murs en terre, ce genre de.
Alors,
en pierre.
Alors y a quelques murs en pierre sèche.
Ouais.
Mais par contre, y a beaucoup plus de talus en fait.
Les talus, ouais.
Et les talus. En fait, à l'époque, ils étaient fauchés deux fois dans l'année, toujours en été. Mmh. Donc là, moi, je me suis rendu compte que c'était une grosse bêtise.
Ouais.
Parce qu'en fait, Le végétal, toute l'année, avait besoin de pousser quand on fauche quelque chose en été. Même si, enfin, quand c'est pas le bon moment. D'ailleurs, ça va toujours revégéter. C'est pas trop intéressant. En fait, là, l'idée, c'est de laisser pousser au printemps. Ça monte à une certaine hauteur. On vient faucher vraiment tout ce qui est autour des pieds. Mais tout le reste, on le laisse pousser. Et une fois que ça monte en graines, ça sèche.
Mais est-ce que dans un monde où on parle de plus en plus d'écologie, est-ce que le vigneron n'est pas celui qui, alors que le vigneron indépendant, biodynamie, nature, ceux qui sont dans la même mouvance que toi, ne sont pas ceux qui ont le mieux compris le changement climatique et l'évolution? Est-ce que vous n'êtes pas les vrais écolos au final?
Bah, de toute façon, on est tous les jours sur le terrain, on remarque plein de choses, quoi. Donc ouais. C'est sûr que nous, quelque part, on est les meilleurs écolos, c'est sûr, quoi. C'est pas ceux qui décident pour nous, quoi. Qui sont à l'intérieur, qui s'imaginent des choses, quoi.
Derrière un bureau, c'est plus facile.
Comment?
Derrière un bureau, visiblement,
ouais.
C'est plus facile.
Ouais, voilà, bon, c'est assez rigolo, des fois, les décisions qui sont prises, quoi. C'est même pas trop compréhensible, quoi. Mais oui, nous, c'est vrai que même si on n'est pas toujours tous d'accord, mais après, il faut dire, c'est que le début. Ouais. Là, on voit l'impact qui commence à être de plus en plus important, parce que quand je discutais avec mon grand-père, il me disait pas que les années se ressemblaient, mais qu'ils avaient quand même moins de soucis qu'aujourd'hui, quoi. Où il y a ces gros écarts de température, les climats changent vraiment, et il y a vraiment un gros manque d'eau. Quand il pleut pas, des fois, ça dure longtemps. Et donc, voilà, on peut plus travailler quand même sur des sols nus ou des sols qui sont complètement fauchés, que ce soit fauché ou labouré, c'est pareil pour moi, quoi. Donc c'est pour ça que avoir une couverture des sols, avoir des arbres qui font un peu d'ombre, avoir cette diversité en fait de choses qui vont acclimater justement la vigne pour qu'elle reste en bonne santé, c'est super important, quoi.
Bien sûr.
Après là je reste dans une idée qui est la mienne. Peut-être que si on se revoit dans 5 ans, je vais te dire autre chose, quoi.
Ouais. C'est pas mal de voir. Oui, enfin, comme sur M6, ils en sont où depuis 5 ans?
Ouais, carrément, carrément. Mais bon, après, c'est ça qui est bien, ça montre bien.
J'avoue
qu'on
cherche à évoluer.
Oui, mais c'est bien, ça montre bien qu'on cherche toujours à évoluer, qu'on n'est pas...
Tu disais que tu es arrivé en 2004, t'avais quel âge?
2004, bonne question. J'étais tout jeune, j'avais 16 ans, je crois.
Ouais.
16 ans, ouais. Ouais, 16 ans.
Et aujourd'hui, t'en as?
Moi, j'ai 33 ans.
Okay. C'est quoi le regard que tu portes sur le gamin de 16 ans que tu étais, l'évolution? Ah, comme ça, si tu regardes en arrière, t'es plutôt fier? Moi, je vois que je te vois depuis quelques temps dans les salons, je vois que t'es plus en plus confiant de ce que tu fais. Mmh. Enfin, moi, ça se voit, hein, ça se voit dans ton... Ouais. Mais c'est quoi le regard que tu portes sur le gamin que t'étais à 16 ans, qui faisait ses premiers vins, qui était pas du tout d'accord déjà à l'époque?
Alors, il y a un gros changement, parce que déjà, moi, quand j'étais gamin, quand j'ai commencé à travailler dans les vignes, de base, je voulais pas travailler dans les vignes, quoi. Mmh. Je voulais travailler, alors je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais travailler avec les animaux et avec les fleurs. Donc je voulais soit être horticulteur, soit paysagiste. Et en même temps, pourquoi pas élever des animaux. Enfin, j'étais vraiment dans un autre...
Et la viticulture, du tout?
Ben non, parce que en fait, le domaine familial, on va dire, n'était pas trop attirant. Quand on venait ici, il y avait pas une belle énergie, quoi. Pas comme aujourd'hui où on est content de ce qu'on fait et on se félicite quand ça marche, alors qu'avant c'est pas du tout, en fait. On sait pas trop ce qui se passait ici, quoi. Il y avait pas une belle dynamique, on se sentait pas bien, quoi. Je sais pas comment expliquer, quoi.
Il y avait une énergie négative et les vins, tu t'adhérais pas forcément, c'est ce que tu disais.
Ouais, bah déjà les vins,
t'es pas trop,
je les aimais pas.
Même si il y a une réalité économique, t'as pas l'air d'être le businessman le plus enclin à penser à argent. Et t'es quel type de patron? T'es patron aussi?
Bah ouais, je suis patron. Je pense que je suis un patron assez cool, parce que les tâches, on va dire, difficiles, quand elles sont vraiment difficiles, c'est moi qui m'en occupe en général, quoi. Uh-huh. Ou en tout cas, je suis pas le seul à le faire, j'accompagne, quoi. Voilà, parce que quand on est patron, il faut savoir en fait être dans les moments, dans les tâches les plus compliquées. C'est important de savoir comment ça se passe.
Peux-tu être un leader ou un petit chef?
Non, je suis plutôt, je pense que je suis qu'un leader dans mon domaine, parce que mes idées, je les défends. Même si j'écoute énormément ce que mon équipe transmets, quoi. Parce que bien sûr, je ne suis pas partout non plus. Il y a des... Voilà, chacun est spécialisé dans son domaine. Et puis, j'écoute beaucoup mon équipe. Mais c'est quand même moi, au final, qui prends mes décisions, quoi.
Après, c'est vrai que pour voir Elsa, pour avoir croisé Mika aussi à un salon, ouais. Bah, les gens, s'ils t'accompagnent, c'est qu'ils sont convaincus par ce que tu fais. Donc, quelque part, ils te suivent.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est quoi la chose dont tu es le plus fier, là, si tu... Sur les 2004-2022, ouais, ça fait quasiment 20 ans,
ouais,
que tu es sur place.
Ouais.
S'il y avait une chose dont tu es fier, c'est quoi? C'est justement d'avoir amené le domaine à un tel niveau?
Bah, vraiment le changement de viticulture. Mmh. Le changement de viticulture. Et puis, j'ai réussi en fait à mettre une équipe, en fait l'équipe que j'ai en place actuellement. Et ben, elle me suit complètement dans ma philosophie. Et puis, c'est pas comme... Avant, c'était, bah, on disait à notre ouvrier, par exemple, bah, tiens, tu vas aller tailler. Et bah, il allait tailler sa vigne. On lui a pas appris à aller tailler sa vigne de notre manière. C'était, il allait tailler la vigne comme tout le monde, quoi. Ou il allait pas lisser. Enfin, voilà, il y avait l'ouvrier avant, il était pas du tout impliqué dans une philosophie.
Donc là, tu les pousses aussi à la réflexion.
Ben ouais, en fait, on communique beaucoup. J'explique toujours pourquoi on fait. Et eux font aussi leur recherche de l'autre côté. Ils sont très actifs. Ils posent des questions à gauche, à droite. Mmh. Ils sont limite autant impliqués que moi.
Donc ils ne sont pas juste là pour avoir un salaire et un revoir. Ils sont impliqués.
Ils sont super impliqués. Et puis, je pense que cette dynamique-là, ça vient aussi un peu de moi.
Je pense que le fait que toi, tu te cultives à côté, que voilà, je pense que tu as lu des dizaines, tu as regardé des choses beaucoup sur l'agroforesterie d'ailleurs. Mmh. On peut peut-être avoir une petite pensée pour Pierre Rabhi qui est mort il y a pas longtemps, mais qui a quand même insufflé à l'agroculture, l'agroforesterie. Il a vraiment défendu ça. Hein. On peut pas tout lui laisser, mais ça, il faut quand même le reconnaître que c'était positif.
Ah bon.
Toi, tu te formes beaucoup, tu investis beaucoup, donc tu peux former tes ouvriers, quoi.
Ah oui, 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 carrément.
C'est important.
C'est important. Et comme dit, si on n'avait pas cet échange, si c'était des ouvriers qui ne comprennent pas ce qu'ils font dans les vignes, il n'y aurait au final aucun intérêt qu'ils travaillent chez moi, quoi. Là, c'est justement, même quand on a les vignes, quand on travaille ensemble, on est tout le temps en train de discuter sur tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. On est tout le temps en train de chercher à s'améliorer. Déjà que ce soit moins pénible pour nous, que ce soit mieux pour la vigne, on cherche à faire une meilleure qualité. Voilà, on est toujours dans cette dynamique-là, quoi, à chercher le meilleur pour se faire plaisir, quoi, qu'on soit tous contents, en fait.
Et au niveau de Saint-Hippolyte, comment ils réagissent? T'es le seul à avoir fait la transition, le changement?
Alors, sur Saint-Hippolyte, il y a le bio qui commence.
Mmh.
Vraiment, quoi. Je pense que c'est surtout parce qu'il y a une demande du négoce et des coopérateurs, quoi. De la coopérative.
Donc c'est plus par...
C'est plus pas au niveau économique.
Opportunité que...
Ouais. Qu'autre chose. Je pense pas qu'ils
par le culture.
Font. Voilà, exactement. Et c'est juste ça que je trouve dommage. Et puis on le voit, ça reste dans l'ensemble du bio intensif, quoi. Mais c'est pas que sur notre commune, hein, c'est un peu partout.
C'est partout, ouais.
Et c'est un peu ça qui est dommage, hein, c'est que quand on va dans un label comme ça, il faudrait respecter le label. Et puis dire bah si j'y vais, c'est parce que bah j'apprécie la charte ou voilà, quoi.
Ouais.
Et puis je veux bien le faire, quoi. Et ouais, c'est un peu là où je suis déçu. Je me dis bon, bah ça reste une viticulture d'époque, quoi. Ouais. En gros, ça change rien du conventionnel où on était avant, quoi, le nouveau bio, quoi. Ouais. Qui arrive là.
Non, ça change rien.
C'est ça.
On a juste mis une feuille verte en plus.
Voilà, une petite feuille verte en plus ça rassure le client.
Ça rassure les gens. Je pense de moins en moins.
De moins en moins, du coup, oui. Parce que grâce à ça, on va dire, quoi. Mais, enfin, malheureusement. Mais c'est pour ça que bah, nous, on a un peu du mal à se démarquer de tout ça. Même si on communique sur des choses, bah, on peut dire ce qu'on veut, en fait. Phytosanitaire, bah, on a perdu quand même 90% de certaines parcelles, quoi. Donc, Mais voilà, en fait, si on ne prend pas de risques aujourd'hui dans notre viticulture, on n'avancera pas, quoi.
Ouais. Mais peut-être que 2021, il y a des vignerons qui vont peut-être se révéler encore plus.
Ouais, voilà.
C'est vrai que est-ce qu'on n'a pas fait trop de macération à un moment donné? Est-ce que le pressurage direct, voilà, je pense que vous êtes qu'au début de votre réflexion. Ouais. Alors, je te propose qu'on va parler de vinification, de terroir, juste après. Non, ça, on va te lancer la dégustation, ça va?
Vas-y.
Ouais. Allez, place à la dégustation.
Merkin time, les bateaux, Merkin time.
Bah, la dégustation, moi j'aime beaucoup parce que c'est là où ça permet aussi de parler de vinification. Alors c'est vrai qu'on a la chance en Alsace d'avoir des vignerons qui sont pas là, qui n'ont pas beaucoup de bouteilles. Mais enfin, t'es là depuis 2004, mais t'es vraiment là depuis 2014, me semble-t-il. Voilà, donc t'as 10 ans. Bon, je vois que ta gamme s'agrandit quand même de plus en plus, donc tu retournes quand même dans les vieux travers alsaciens.
Exactement,
où ils te disent oui, j'enlève une cuvée, et puis en fait, ils en rajoutent une à chaque fois. J'appelle ça le syndrome Eric Cam. Mais je suis enlevé des bouteilles. Ben, bref. Est-ce que tu peux me parler de ta philosophie de vinification? Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu crées?
Alors, moi, ma philosophie de vinification, depuis peu, on va dire, je vinifie en fait beaucoup dans mes vignes, quoi. Ça, c'est vraiment.
Donc, le vin se fait dans les vignes.
Ouais, c'est vraiment par rapport à mon expérience que je dis ça, parce que je me suis rendu compte qu'une vigne bien, bien travaillée, en fait, avec une qualité parfaite, et ben le vin est fait à 90%, quoi.
Bien sûr.
Et donc après, peu importe les techniques, qu'on fasse de la presse directe, de la macération, peu importe le vigneron, c'est toujours bon, quoi.
Sans tu peux faire de la macération et faire un mauvais vin aussi.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que la macération c'est au presse directe, enfin c'est pas le type de vinification qui en gros. Tu peux investir dans le l'amphore et passer complètement à côté de ton vin.
Exactement. Ouais. Après, bien sûr, qu'en vinification, on est aussi poussé que dans la vigne. Hein. On aime bien les techniques, les meilleures techniques, quoi. Donc, on fait des pressurages vraiment très, très lents, quoi. On va des fois jusqu'à 10 heures de pressurage. On sépare les tailles, quoi. On ne fait pas de débourbage. Voilà, en intrant, on n'a vraiment plus rien, quoi. On est vraiment que à 100%
raisin. Pas de colle de poisson, pas de colle d'œuf.
Bah, non, surtout pas.
non, je peux poser la question. Et c'est une question que j'ai posée à Arnaud Geschicht et que j'aime bien poser en ce moment. Tu as comme ça des questions qu'on aime bien et qu'on aime bien ressortir, puis elles disparaissent et réapparaissent. Oui. Est-ce qu'on peut parler de créativité et de terroir? Est-ce qu'il y a un lien entre la créativité et le terroir?
Alors,
vous avez 4 heures, monsieur.
c'est pas évident de répondre, mais bah le lien, si, bah de toute façon, dans tous les cas, quand on est créatif dans ses vignes, quand on est créatif dans sa façon de vinifier, on exprime dans tous les cas le terroir d'une autre manière. C'est vrai que si je sors des vieilles bouteilles d'il y a 10 ans, quoi, comme on vinifiait, comme on travaillait la vigne, et comme c'est vinifié aujourd'hui, comme la vigne est travaillée, et les vins n'ont rien à voir, mais le terroir, on le ressent quand même.
Ouais.
C'est assez fou, même si c'était des vins complètement dénaturés à l'époque, y a une certaine trame qui est... Enfin, on peut pas l'enlever, quoi. Elle est dans le vin, quoi. Ouais. Et donc, le côté, en fait, artiste du vigneron, quoi, on va dire, et ben, c'est juste donner le côté très original dans le vin, quoi, où on se fait plaisir, quoi. on s'emmerde pas en fait quand on boit le vin. Je pense que le vigneron apporte ça, quoi.
Et quand t'as fait goûter tes premiers vins à ta mère, par exemple, comment elle a réagi? La toute première cuvée nature.
Alors, les toutes premières cuvées nature, c'était très dur pour moi parce que personne n'adhérait, personne ne comprenait et tout le monde m'a dit mais en fait, personne ne va aimer ce que tu fais, c'est pas possible, ne fais pas ça, quoi. Mais finalement, ma mère m'a toujours dit si t'as ressenti, fais-le, quoi. Donc, j'ai aussi cette chance-là, elle me poussait quand même à faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Et donc, finalement, je me suis lancé avec mon premier vin nature. C'était en 2015 que j'ai mis en bouteille. Donc, il y avait déjà les rouges que j'ai fait bien avant, quoi.
C'était OVNI, ça.
Le 2015, c'est l'OVNI, ouais. C'était le premier blanc nature. Après, les rouges, comme dit, c'était facile.
Ah, quand même, nature, voilà, ton premier, une de première cuvée OVNI, faut les avoir bien accrochés pour sortir ça, quoi.
Ouais, ouais.
Parce que, aujourd'hui, c'est normal, ça paraît logique et limpide.
Ouais.
Mais en 2015, sortir un chardonnay oxydé en fût de chêne, machin, enfin, tu rajoutes trois trucs, là, en nature, aux quatre, je sais pas, je partirais l'idée que tout le monde aurait coché la case.
Hein. Bah, ouais, justement, quand le vin était encore jeune, c'est compliqué à imaginer aujourd'hui, mais le vin était complètement différent, quoi. Là, il s'est bien fondu, les oxydatifs sont présents, mais pas trop non plus, il y a encore une belle tension dans le vin, quoi. Alors qu'avant, c'était pas aussi bien lié, aussi facile, quoi, quand le vin était jeune. Surtout, après mise en bouteille, les deux premières semaines, le vin était presque, pour nous qui n'avons pas vraiment l'habitude de boire des vins nature avec des oxydations dans les vins, on s'est dit, le vin est flingué, là. Puis finalement, j'ai appris que un vin qui est mis en bouteille, très vite, il revient. Enfin, c'est rigolo, en fait. Tout ça, c'est des expériences et qu'avec le temps, en fait, tout devient facile et logique. Et tout, on réfléchit plus quand on le fait, quoi. Mais avant, c'était, on se posait, je me posais plein de questions. Personne n'adhérait à ce vin, je l'ai mis en bouteille, au final, j'ai fait une étiquette, on ne l'a jamais vendu parce qu'on n'était pas sûr de notre produit, et surtout, j'étais le seul à vraiment y croire, même si après, petit à petit, ma mère adorait ce produit, Marianne aussi adorait ce produit.
Elle a vraiment explosé en été 2021, j'ai l'impression que...
Ben oui, alors ça fait depuis 2018 que cette cuvée-là est en vente, quoi. Ouais. Et pourtant, on l'avait déjà présenté, mais ça marchait pas. Enfin, en fait, c'est peut-être simplement qu'on l'a pas montré au bon endroit, quoi.
Certainement, et peut-être pas aussi, parce que moi, je pense par exemple à Onirink de Confrières. On est un peu sur la même idée, hein, Sylvaner, un peu sur l'oxydatif, un peu vieilli, 6 ans aussi. Ouais. C'est vrai que ça surprend. Moi, c'est des choses que j'aime bien boire, mais c'est vrai que bon. Ouais, je trouve qu'OVNI, voilà, c'est une merveille, quoi. C'est un vin qui se boit facile. Après, c'est pas forcément un vin que je donnerais, que je ferais goûter à des gens qui sont pas convaincus, hein.
C'est une
évidence, mais pour moi, c'est comme ça que moi, je vous ai découvert, quoi. Et j'ai l'impression que 2021, ça vous a vraiment, peut-être même le Covid, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que le Covid a eu du bon sur vous.
Peut-être. Justement, on est plus passé par les réseaux sociaux, du coup, parce qu'avant, on avait plus tendance à sortir dans les salons. Pas forcément les bons salons, du coup. On était dans nos anciens salons. On prenait ce qu'il y avait, hein, en pensant que ça allait se développer, fonctionner. Mais en fait, là, c'est assez facile, on va dire, depuis 2021. On est dans des salons nature. Donc, la clientèle qui vient dans ce genre de salon sont déjà apprivoisées au vin nature. Donc, c'est beaucoup plus facile.
Bien sûr.
Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça allait vite.
Bien sûr.
Et puis comme dit, oui, le Covid fait qu'on ne communique plus sur les réseaux sociaux, quoi.
Évidemment, les réseaux sociaux ont du bon. Alors, qu'est-ce qu'on goûte? On commence par quoi?
On va pouvoir commencer par Mobilette.
Mobilette.
Donc, c'est une nouvelle cuvée du domaine. En fait, c'est un peu notre Edel Svikaire.
Ah ah. Le gros retour des Edel Svikaire. Après celui de chez Durman et après celui de chez Vincent Gross. Voici le retour des Edel. C'est vrai qu'on les avait un petit peu oubliés. Alors, on va aussi parler. Alors, tes étiquettes, juste avant de parler du vin, c'est ton. C'est ton tatoueur qui l'a fait, je crois.
C'est mon tatoueur, ouais.
Qui n'est pas, de ce que j'ai compris, c'est... oui, parce que je me renseigne un peu avant quand même. Salut Adrien. Qui n'est pas un grand amateur de vin.
C'est ça.
Qui est plutôt bière.
Alors non, même pas. Alors Jobs, en fait, c'est...
Alors historiquement, c'était un peu un assemblage autorisé de 7 cépages, je crois.
De 7 cépages. Ouais.
Dont le Chasselas faisait Chasselas. Partie, ouais. Ouais. Chasselas. Et donc, c'était un peu le vin que tu goûtais dans les bistrots. Tu t'attendais pas à grand-chose.
Ouais, c'est ça.
Pourquoi t'as refait un truc qui est quand même un peu vieux, un peu démodé?
Je vais pas l'appeler Edelsficker, hein. Ouais. Mais en fait, quand je dis que c'est notre Edelsficker, c'est que ça reste quand même des vins qui sont assemblés après fermentation, quoi. Donc c'est pas tout le reste de cuve, hein, c'est quand même travaillé. Mais ça reste un assemblage qui est fait bien après, un peu comme un Edel, quoi. Vraiment en fin de course, quoi. Et donc, c'est une cuvée, on va dire, qui est assemblée pour que ce soit facile à boire.
Et mobilette, parce que quand t'étais plus jeune, tu draguais les filles en mobilette.
Non.
En village.
Non,
la mob.
Pas. Non, même pas. On est parti sur mobilette pour dire l'effet mélange, parce que dans le mobilette, on met du mélange, quoi.
Ok.
C'est ça un peu l'idée.
Ouais, je connais l'histoire.
C'est rigolo, quoi.
Ouais. C'était des gamins qui venaient au foot qui voulaient un mélange. Orangina, Coca. Mm-hmm. Ça s'appelait des mélanges quand on était gamins.
C'est ça.
Alors moi, j'aime beaucoup. Alors moi, je suis un amoureux du vin orange. Je trouve que la texture, elle est un peu plus épaisse sur ce vin-là.
Mm-hmm.
Encore une fois, ce que j'aime beaucoup dans vos vins, c'est le côté bien digeste, bien... Une belle buvabilité. En fait, j'ai rarement bu des vins chez vous qui n'étaient pas buvables. Alors, il y en a qui t'adhèrent un peu moins que d'autres, ça c'est tout à fait normal. Mm-hmm. Mais encore une fois, on a cette belle fraîcheur que moi j'aime beaucoup. Macération courte ou...
Macération, alors il n'y a pas que de la macération.
Ok.
Il y a facile 70% de presse directe et le reste en macération.
Ouais, franchement, c'est très gourmand. On rappelle qu'un vin orange, c'est un vin blanc qui est travaillé comme un vin rouge.
C'est
qu'on va retrouver la fraîcheur, c'est toujours bien de le rappeler. Mmh. La fraîcheur et les tanins. Alors là, les tanins, ils sont vraiment pas trop présents.
Hein. Ah,
on a la fraîcheur.
C'est très light.
On a, c'est quoi, c'est grappage ou...
Non, on a toujours en raisin entier.
En raisin entier.
Après, les macérations sont très courtes. Mmh. Et nous, on fait pas de pigeage, quoi.
Okay.
Ou de remontage.
Alors, je veux juste réexpliquer ce que c'est le pigeage pour les gens.
Pigeage, c'est casser, soi-disant, le gâteau qui se retrouve sur le dessus de la cuve, quoi. Pour bien remuer, pour extraire les couleurs.
Alors, je crois que cette année, ça n'était pas trop cassé du tout, parce qu'ils avaient peur que le mildiou se mélange.
Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Ouais, c'est assez rigolo, ça. Je ne comprends pas pourquoi les vignerons avaient peur des mildiou.
Donc,
quoi.
Juste réexpliquer, quand tu macères, t'as la cuve, tu mets le raisin dedans, tu as la cuve, tu fermes la cuve.
Ouais.
Donc, tu as un chapeau qui se forme et donc
oui.
Le pigeage, c'est
casser. Bien casser le dessus. Hein. On vient mélanger en fait le jus qui se retrouve en bas avec.
Avec du raisin du papier, vous allez être des vignerons. Hein.
Ah, oui.
Bientôt, c'est toujours bien de vous rappeler. Et du coup, ça, c'est une nouvelle cuvée et ça, c'est ça. Voilà. Ça, c'est clairement pour moi le genre de vin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Symbiose quand on était en cave. C'est des vins que moi, j'ai envie de mettre sur la table qui sont accueillants. C'est vraiment des vins d'accueil.
C'est ça.
Je dirais pas la base, c'est vraiment l'entrée de gamme entre guillemets, mais c'est vraiment les mains de copains. Et je trouve que ça c'est très très gourmand, quoi.
Ouais, c'est facile. Ouais. C'est le vin de soif, comme on dit. Ouais.
J'aime bien le vin de soif.
On se fait plaisir.
Place au deuxième, mais hein. Ouais, parce qu'il a ramené une belle collection. Mais c'est pas grave, on en a supporté d'autres. T'as renouvelé, t'as remodernisé. Les vieilles étiquettes alsaciennes.
Ouais, c'est ça. Ouais. On a un peu donné, comme dit, c'est Jobs qui a imaginé de le mettre comme ça en image, quoi, ce petit vieux nom, on va dire, enfin, ce vieux lieu dit. Quoi.
Parce que bon, vos étiquettes, on sait que c'est vous, quoi.
Ouais.
Hein, c'est.
Là, oui, ça trompe pas.
Du coup, parle-moi de ce vin-là. Alors moi, je vais déjà.
Là, en fait, on est sur donc la parcelle du Burgaben. Donc c'est une parcelle qui fait 3 hectares.
Ouais.
Et donc, sur cette parcelle, on a un gros îlot de Riesling. Et donc, là, on est sur 100% Riesling en presse directe. Et donc là, c'est de l'année, c'est
2021. Ouais, il est bien jeune, il va direct aussi, hein. Il est ciselé, ouais. il est frais, il est vif. Il atteint son but tout de suite, lui. Hein. Il va pas commencer à vous raconter l'histoire. Lui, sa blague, c'est une fois et c'est bon.
C'est ça, hein, c'est ça, c'est très direct, ouais.
Il vous réveille, c'est vraiment une belle acidité, c'est le premier vin du jour, c'est celui qui, pour ouvrir la bouche, c'est parfait ça, pour tout de suite un apéritif à 11h, vous ouvrez ça, bon évitez au petit déjeuner, mais c'est, oui. Je dis toujours que c'est un vin petit déjeuner ça, c'est parce que c'est des trucs qui sont très bons, ça fait penser à un matin fou de Dylan Laub ou Sylvaner de chez Diringer, c'est un peu la même belle acidité qui te réveille bien et parfois il vaut mieux boire un bon vin qu'un mauvais jus d'orange, hein, messieurs dames.
Ça c'est sûr.
Mais c'est vrai, et encore une fois, donc là on est sur quoi comme type de sol? C'est du
granitique aussi.
C'est pour ça qu'on a le côté ciselé un petit peu, le côté direct et vif.
C'est ça, ouais. Alors c'est un granit un petit peu différent. On a un granit très sableux sur le dessus, très décomposé. Mais très vite, on est sur un granit très dur.
C'est le même qu'on a goûté en bas en cave?
Non.
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 Parce que l'autre était plus velours, lui était plus...
Ouais, c'est ça. L'autre, c'était du Lagenberg qu'on a dégusté en cave.
Ouais.
Et 2020. Ouais. Donc encore une fois différent. Quoi.
Ouais. Et comme quoi, hein, sur un même cépage, avec des terroirs totalement différents et une ancienneté aussi forcément différente, mais
ouais,
rien à voir.
Ouais, ça n'a rien à voir, c'est ça.
Non, moi, je précise. Okay, on continue avec quoi, monsieur?
Bah, du coup...
Les fraises. Non, c'est pas la fraise? Ah non, c'est une maison, non c'est...
Alors, c'est un château.
Un château.
Donc, c'est Schloss Reben.
Ok.
Donc, c'est les vignes du château. C'est pour ça qu'on a mis château, avec ce corps en vigne.
Ça ressemble un peu au Königsbourg.
Bah c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a mis, parce que c'est une parcelle qui est juste derrière, qui s'appelle le Schloss Reben, et en fait, c'est Schloss Reben par rapport au château.
Donc, après, c'est normal de communiquer sur le Königsbourg, hein. C'est quand même...
Ah bah oui.
C'est quand même la bête...
Donc là, c'est Gewürztraminer et Riesling, et donc là, on est aussi sur une petite courte macération.
Ouais, ça se sent.
De 3-4 jours.
On sent le Gewürztraminer au nez, il est là.
Ouais, ouais.
Le floral. Encore une fois, la macération. Donc, toi, c'est pareil, tu vas jusqu'au bout de la fermentation, le sucre.
Ouais.
On enlève.
On enlève tout, ouais.
Donc, ouais. Le Gewürztraminer en sec, c'est mieux.
Ouais. C'est mieux. Ça dépend toujours des équilibres, mais c'est vrai qu'avec ces maturités-là, il ne faudrait pas laisser de sucre.
Ça change de l'héroïque Litchi Rose.
Ouais, c'est clair.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans les assemblages, alors que ce soit Riesling, Gewürz ou Sylvaner Gewürz, c'est vraiment, je trouve que les deux se marient très bien. Là encore, on a le nez, on a le côté bien floral, par contre, qui vient en premier. Et souvent, on a l'acidité du Riesling qui vient chatouiller d'abord. Là, je trouve que le Gewürztraminer se dit, écoute Coco, c'est moi qui domine.
C'est ça.
Voilà, et que je trouve que au nez, comme ça, on sent pas le... Alors, tu viens de l'ouvrir aussi, donc ça fait beaucoup. Carafer vos vins, c'est toujours une bonne chose.
Ouais.
Au moins une heure avant, nous, on n'a pas forcément le temps de le faire parce que on ouvre les bouteilles et on boit. Mais en réalité, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse tous. Sauf évidemment les vins effervescents qui ne se carafent pas parce que autant préciser les choses. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'on a... Alors, le premier nez, on avait... donc, en l'ouvrant un petit peu, je vais voir si le Riesling se défend ou... Ouais, après l'ouverture, on a un équilibre qui donc le Gewürztraminer s'est un peu laissé rattraper par le Riesling, qui s'est dit bon laisse-moi tranquille. Mais non, encore une fois, on trouve c'est ta patte, c'est ce qui me surprend dans tes vins, qui me surprend peut-être plus aujourd'hui que les autres jours où j'ai goûté, c'est ce côté un peu velours, un peu satin, vraiment le... Ouais, c'est une caresse, c'est vraiment ça. Bon, t'as de la vie, hein, clairement.
Ton truc,
c'est vivant. Mais en fait, on a l'impression que tous tes vins, c'est une symphonie.
Mais c'est rigolo que tu dis ça, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à nous dire la même chose, que bah, c'est, t'as toujours cette facilité chez nous. Les vins se reconnaissent, même quand ils sont bu à l'autre bout du monde, ils disent bah, ça, ça doit être de lui. Enfin, c'est assez rigolo, quoi. Parce que j'ai eu le cas dernièrement, un client qui m'a dit ça, quoi. Donc, il a dégusté un vin, donc c'était pas sur mon étiquette, quoi. Parce qu'on a vinifié aussi pour d'autres personnes, quoi. Et puis, il était persuadé que c'était bien. Et après recherche, il s'est rendu compte que, bah oui, effectivement, c'était bien de chez moi, quoi. Je me dis que toutes ces années, je me suis pas battu pour rien, quoi.
Justement, qu'ils en pensent quoi, ta famille, maintenant, alors qu'ils ont un peu, entre guillemets, perdu le pari?
Comme dit.
T'es rancunier?
Non, pas du tout. Pas du tout rancunier, mais j'ai pas vraiment, à part ma mère qui me suit à fond,
ouais.
À côté de ça, j'ai pas du tout de.
T'as pas de contact?
Pas de contact, c'est-à-dire on me félicite pas ou on me pousse pas à continuer.
Après, ton plaisir, c'est dans les yeux des clients. C'est
ouais, bah c'est ça. Et surtout, Et surtout, déjà, j'ai la chance d'avoir des clients maintenant qui me suivent, qui aiment ce que je fais, d'avoir une belle équipe qui aime ce que je fais, quoi. Mais surtout, je me fais plaisir, quoi. Parce que bon, ce que je dis toujours, hein, ceux qui choisissent de faire un métier juste parce que derrière, ils disent ça va être cool parce que j'ai gagné de l'argent, quoi. Mais qu'au final, ils se font pas plaisir tous les jours. Ça, c'est pas génial, quoi.
Je préfère faire footballeur de commoner. Je pense que t'es un peu plus souvent dehors et au froid et tailler et machin et se remettre en question, ça doit pas être évident. Et attention, un vin qui marche bien et le refaire derrière ou pas, machin, parce que en fait, tu.
Ben après, oui, il y a cette pression qui peut venir, quoi, parce que comme dit, du coup, je l'ai vu cette année avec les grosses pressions qu'on a eues climatiques. Réussir à être assez régulier, on va dire, sur les qualités, c'est une pression en plus, surtout quand on est en full nature, quoi. Parce que le client attend quand même quelque chose de nous maintenant, quoi.
Bien sûr.
Parce que une fois qu'on commence à vendre des bouteilles un peu partout, le client, il attend toujours le futur millésime, quoi. Il faut un peu de stock, quoi.
Bien sûr.
Et donc, ouais, c'est une pression en plus, quoi. C'est une pression que j'avais pas avant. Avant, je me posais pas trop de questions. Bon, bah. Comme dit, à l'époque, c'était beaucoup vendu en vrac, on faisait même beaucoup moins de bouteilles, donc, ouais, c'est cette pression qui est en cause.
Aujourd'hui, tu fais les vins, toi, tu travailles aussi avec Pirouette.
Ouais.
Si un impliqué dans Pirouette.
C'est ça.
T'as d'autres projets que tu soutiens
Quoi, à côté de ça?
Ouais.
Bah non, en fait, là, aujourd'hui, on vend tout
C'est quoi les pays où tu exportes le plus tes vins?
Eh ben, là où on exporte le plus... Bah, c'est avec Pirouette, hein. Là où on exporte le plus, quoi, c'est aux États-Unis.
Ouais.
Là-bas, il y a un gros client, quoi, qui nous prend énormément de vin.
T'es un peu en Asie aussi avec tes vins ou...
Ouais, ouais.
Ça va,
ouais. Oui, oui. Bah, là, du coup.
Belgique, oui.
De notre côté, que... par Pirouette aussi, quoi.
La Belgique considère que l'Alsace leur appartient, donc.
Bah, les Belges, hein, c'est vrai que. On a fait un salon là-bas, même les anciens Belges. Ouais. Le premier schlouk, ils ne comprennent pas, mais au final, ils partent quand même avec un carton, c'est rigolo.
Oh,
quoi.
Bah donc,
c'est super ouvert. Quoi.
Donc, l'Alsacien un peu ancien est moins ouvert? Non, l'Alsacien conservateur? Mais non.
Si, si.
Ah, bah non, bah dites donc. Bah dis donc. Bah oui, bah, ouais. Sortant un peu de ce conservatisme, mais bon, finalement, on l'était tous un petit peu.
Oui.
La première vin nature que j'ai bu, moi, il a fini dans l'évier. Hein. Ouais. Enfin, je trouvais pas ça bon du tout.
Ouais, bon, après, surtout qu'au début, trouver des bons vins nature, c'était déjà pas évident.
Compliqué.
Moi, les premiers vins nature que j'ai bu, bon, ça date, hein, mais ouais, c'était pas du tout maîtrisé.
Aujourd'hui, t'en trouves partout, quasiment,
ouais.
Maintenant.
Ouais.
Un vin sans sulfite.
Bah ouais, c'est ça. Ouais.
Cléron. Ouais. Qu'est-ce qu'on boit?
Bon, ouais, allez.
Symbiose. C'est quand même ton vin. Ah, Symbiose. Moi, le premier que j'ai bu, toi, je crois que c'était Nice que j'ai d'abord bu. Puis, je suis tombé sur OVNI. Puis là, j'ai pris une bouteille pour moi tout seul et j'ai laissé moi tranquille. J'étais dans mon coin, j'étais heureux. Et bah, il y a Renette aussi, que j'ai goûté.
Renette, ouais.
Qui est ton pet nat. Mais c'est vrai que Symbiose, je l'ai goûté. Je l'ai découvert vraiment récemment.
Ouais.
Et... j'ai ressenti la même chose que j'ai goûté quand j'ai bu Cirrhose de Binaire. Ce côté, ce frisson qui fait du bien. Hein. Tu vois, parfois, je sais pas si tu as déjà eu dans le dos.
Oui, je vois, ouais.
Et tu frissonnes comme ça, mais en fait, finalement, ça fait du bien. Ben, en fait, tu ressens ça.
Carrément.
Tu ressens ça et cet assemblage de, je crois, cette.
Alors là, on est sur six cépages.
Six cépages de.
Ouais,
de...
en fait, il y a tout sauf le Sylvaner et le Pinot Noir.
Parce que le Sylvaner, tu n'en avais pas, et le Pinot Noir. Ah ouais.
Et le Pinot Noir, du coup, bah, là, c'est une parcelle qui est en pleine, donc elle conduit en agroforesterie. Okay. Et du coup.
C'était la première parcelle, je crois. Hein. C'était la première parcelle en.
En agroforesterie, ouais. En tout cas, conduit comme je fais aujourd'hui, oui. Après, comme je l'ai expliqué avant, on a planté les arbres fruitiers à la place d'un pied de vigne. Donc ça, je n'y compte pas vraiment. Quoi.
Alors, on pourrait imaginer, je vois demain, parce que tu parles d'arbres fruitiers, d'avoir des cuvées. Alors je sais que tu as une Mirabelle qui est en place.
Ouais.
Tu sais que mon cuvée va se retrouver chez toi bientôt. mais est-ce que tu pourrais imaginer de faire un mix raisin, fruits J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez tous... C'est, je sens un besoin, une envie de créer. De...
Ouais, bah, c'est justement pour parler d'un lieu. En fait, moi, je trouve ça super intéressant et ça rejoint un peu l'idée de la permaculture, de pouvoir, sur un lieu, être hyper productif.
Ouais.
Ça veut dire que toute l'année, on peut récolter plein de choses sur un hectare. Et pourquoi pas, sur ce lieu-dit, sur ce terroir, et ben tout travailler à côté, puis un jour peut-être tout rassembler au dernier moment, je sais pas quoi, enfin créer vraiment...
Parce que là, c'est vrai que symbiose, on est... Moi, je trouve que symbiose, là, plus je t'écoute, je vois de... Enfin, depuis qu'on se connaît, puis depuis que je... C'est toi, en fait. C'est le vin. C'est ton identité.
Bah ça, oui, symbiose, c'est vrai que
en fait, c'est ta carte de vie, dis-je crois.
Ouais, le symbiose, ouais, c'est un vin qu'on... qui est un peu maintenant, on va dire, partout, quoi. Et puis c'est vrai que c'est ce qui me ressemble, c'est un vin qui me ressemble beaucoup.
Il est simple, il est accessible,
c'est ça.
Gourmand, il est gastronomique, il est vif, frais. C'est un vin d'été, d'automne, d'hiver. Tu le mets un peu plus frais en été, ça marche bien. Mais
ouais.
Tu peux même le faire évoluer sur la table. Et il va pas.
Ouais.
C'est un vin de barbecue par exemple.
Très polyvalent, ça va.
Peut-être à tester sur une raclette, ce serait peut-être pas mal sur du
fromage. Voilà, déjà fait, ouais.
Ouais.
Alors, ce qui marche pas trop, c'est vraiment la charcuterie viande rouge, quoi.
Okay.
Ça, c'est pas top.
Ouais.
Sinon, ça marche bien sur quasi tout, quoi.
Mais ouais, moi, j'aime beaucoup ce vin-là et ouais, c'est ce que je me dis en goûtant et depuis qu'on discute et qu'on a discuté ce matin. C'est vrai que t'as pas besoin de le garder vide, hein. Bon. Donner une carte de visite est moins cher que de donner une bouteille de vin, mais
ouais.
Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment ta carte de visite, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en plus, je suis plus pour justement le monocépage sur une parcelle.
Mmh.
Et puis du coup, je parle de l'agroforesterie. Aujourd'hui, je parle d'agroforesterie, c'est vrai, mais ce mot, en fait, est très figé aujourd'hui. C'est plutôt de l'agroécologie, quoi.
Et tu pourrais... tu fais de la vente aux charniers, par exemple, ce genre de choses ?
Ouais, ouais.
Okay.
Ça va venir après, là. Je peux te faire
déguster
ça.
Oui, je garde ça pour la fin.
Ouais.
Mais justement, quelques petites questions comme ça qui viennent. Chez moi, il n'y a jamais rien d'écrit. Hein, ça vient comme ça doit prendre. Si tu étais un terroir, tu serais quoi ?
Si j'étais un terroir, qu'est-ce que je serais ? Je me verrais bien dans un nématode, pouvoir me déplacer dans le sol. Et puis, parce que bon, un nématode, c'est rigolo, mais les vignerons, en fait, pour expliquer un peu ce que c'est le nématode, en fait, il est un peu... tous les vignerons ont peur du nématode parce qu'il est porteur d'un virus du cournouet. Sauf que y a plusieurs types de nématodes dans un sol. Mais j'aimerais pas être le nématode du cournouet, justement, le nématode en fait, qui prouve que le sol est vivant, quoi. Donc c'est pour ça que je parle et je dis que je voudrais être un nématode pour justement être sûr d'être dans un sol bien vivant où je me plais, quoi.
Mm-hmm.
Voilà, parce que dans un sol mort, on va dire, y a du nématode nuisible à la vigne. Mais dans les sols vivants, il y a les bons nématodes qui vont justement lutter contre les mauvais nématodes, quoi. C'est assez rigolo, mais bon... Donc c'est pour ça que je dis ça, être dans un milieu vivant, avec une belle diversité.
Si tu étais un cépage, ce serait quoi ?
Alors si j'étais un cépage, je dirais quand même le Pinot Noir. J'aime bien le Pinot Noir parce que, alors pas forcément juste à cause du vin, Je trouve que c'est un cépage qui se travaille très facilement. C'est un cépage qui a peu de vigueur. Mm-hmm. Par contre, on peut le mettre sur des sols super pauvres. En fait, c'est un cépage qui pousse toujours, quoi.
Bien sûr.
Et qui a très peu de soucis. C'est un cépage vivant, quoi.
Si tu étais un vignoble, hors Alsace.
Un vignoble hors Alsace, à vrai dire, j'aimerais pas me retrouver ailleurs que chez moi. Quoi. C'est compliqué.
En Alsace, t'es bien.
Ouais, ouais.
Pas de Bourgogne, pas de Géorgie, pas d'Italie, non, pas d'Espagne.
Non, non, parce que souvent on me dit, ouais, on m'a déjà posé cette question, est-ce que tu te verrais investir dans un vignoble à l'air? Quand j'étais plus jeune, mon grand-père voulait le faire. Et puis je me suis dit à l'époque que ce serait cool. Mais au final, j'ai tellement compris de choses maintenant ici en Alsace que je me sens tellement bien ici que je ne voudrais pas être ailleurs. En fait, c'est ça, quoi. J'ai aucune jalousie en fait, envers d'autres...
Les chauvins ?
Ouais, quand même.
Ok.
Ouais.
Si tu devais être un vigneron hors Alsace, ou une vigneronne,
moi, je me verrais bien dans le sud.
Okay.
En tant que vigneron.
Quelqu'un en particulier ?
Non, pas forcément. Non.
Et un Alsace ? Si tu devais être un. On dit là, tu es toujours, mais tu dois changer.
Faut que je récupère un vignoble.
Faut que tu prennes la place d'un vigneron en Alsace. Qui est-ce que tu aimes bien boire? Qui est-ce qui te fascine? Qui t'inspire?
En Alsace, il y en a plusieurs. Hein. En fait, moi, ce que j'aime.
Je veux dire non. Un non. Mouille-toi un peu.
Il y a toujours eu une parcelle. Alors, il n'y a pas vraiment de nom, mais j'ai toujours voulu avoir une parcelle hyper compliquée à travailler. Et donc, c'était le Grand Cru à Tannes. Et l'Uragan. Et alors, le lieu n'est pas trop génial. Enfin, la vue d'en haut n'est pas trop géniale, mais c'est surtout.
C'est le sol volcanique.
C'est le sol, ouais. Le sol, c'est le climat.
C'est ton caractère.
Ouais, mais surtout le côté très différent à travailler. Qu'une vigne qu'on a l'habitude nous de travailler. Alors, tu pourrais me dire, Katzenthal, c'est pareil, t'as aussi de la pente, mais c'est encore plus aride, je trouve. L'Uragan, c'est vraiment très
volcanique, extrême. Ouais, c'est compliqué.
Ouais. Et un vignoble, ouais, je me verrais bien. Là-bas, c'est un vrai challenge, en fait, de pouvoir travailler sur des vignes comme ça, quoi. Je pense.
Qu'est-ce que tu aimes qu'on dise de toi?
Qu'est-ce que j'aime? De dire que je suis naturel.
C'est quoi le plus beau compliment qu'un nouveau client t'ait fait? Quelqu'un qui découvre le vin nature, ou tes vins, t'ait fait?
Que j'ai un côté artistique. Alors ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois, je me suis jamais vu comme un artiste. Mais pour beaucoup de clients, le vin aujourd'hui reflète un côté artistique, c'est rigolo, quoi.
Mais justement, t'es plutôt paysan, vigneron, vigneron, artisan, artisan, vigneron.
Ouais.
T'es quoi? Parce que puisqu'on est dans un pays où on aime bien mettre des étiquettes,
ouais.
Tu voudrais qu'on dise de quoi? Que t'es plutôt vigneron, plutôt paysan, plutôt un vigneron artisan?
Je dirais vigneron simplement.
Ok.
Parce que le vigneron, en fait, quand tu dis vigneron, pour moi, c'est son métier hyper diversifié, quoi. Donc ouais, vigneron, ça me va.
Ok. Qu'est-ce que tu aimes faire à part le vin? T'as du temps libre, tu fais quoi? Sportif, pas sportif?
Alors,
tatouage, ça t'aime bien?
Ouais, tatouage, j'aime bien. Après, à côté de ça, sportif, j'aime bien faire des randos. J'aime bien sport en général, en fait. Hein. J'ai toujours été un peu sportif, quoi. Même si je pratique plus de sport parce que je prends plus le temps de le faire comme avant, quoi. Mais j'aime bien. Ça me permet de me défouler, tout ça, quoi. Après, à côté de ça, j'aime bien faire un petit jardin, vraiment à côté des vignes. Ou alors, bah, pourquoi pas faire de la bière, comme je t'ai dit, quoi.
Il y en a déjà une qui a été faite ou...
Ouais. Bah bon, j'ai Marianne, ma copine, qui adore la bière et puis elle la boit plus vite que moi. Quoi.
Donc elle sera brasseuse et toi tu seras vigneronce.
Alors non, elle va boire ma bière.
Ah ouais, d'accord. Tu vois. Nous on va revenir pour les boire alors.
Bah ouais. Non mais c'est la prochaine fois, il faut que j'en fasse plus. Mais du coup voilà, à côté de ça, j'ai fait cette bière mais vraiment nature aussi quoi, avec ce que j'ai trouvé chez moi quoi. Je trouve ça cool quoi. C'est un peu revenir sur faire des choses avec ce qu'on a quoi. Donc,
Je te connais pas, tu dois me faire déguster 3 vins. On se connaît pas, tu me donnes 3 vins pour te vendre entre guillemets. Ce serait quoi les 3 vins?
Bah alors déjà, je vais te faire déguster une bulle. Mm-hmm. Donc Petnat. Mm-hmm. Ensuite, symbiose. Mm-hmm. Pour pouvoir t'expliquer un peu ma philosophie, ce sera plus facile directement. Et ensuite, pour l'historique, le rouge à Saint-Hippolyte.
Ok. Et je te propose qu'avant de partir, on goûte la Quinta.
Ouais, je vais te faire déguster la Quinta et puis la ruche aussi.
Ah oui, la ruche. Oui.
La ruche, en fait, c'est notre vendange tardive.
Vendange tardive, c'est vrai.
En pétillant.
Ah, c'est bien. Donc on reste encore ensemble, on va goûter encore de vin et puis tout doucement quitter Saint-Hippolyte, mais on est bien là, tout est agréable. Hein. De toute façon, chez nous ça dure toujours un petit peu plus et puis on est des Alsaciens ou pas hein?
Bah oui.
Nous sommes conviviaux, sinon on serait parisiens et...
Ouais.
Mais non, pareil. Les parisiens, vous êtes conviviaux, oh là là, vous avez le sens de l'accueil. En tout cas, Symbiose, franchement, si vous trouvez une bouteille de Symbiose, c'est très, 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 très bon. Tu es un peu partout en France, déjà. Paris, je pense que on te trouve à Paris.
Ça commence, ouais.
Ouais.
Ça commence à Paris. Mais comme dit, c'est encore un peu light, hein, mais... Attention.
Ça, c'était pour l'effet audio.
Ouais, c'est ça.
C'est tout nouveau, ça.
C'est tout nouveau, ouais.
Tu l'avais à brut? Non. Tu l'avais? Non.
Je réfléchis. Si,
tu l'avais à brut.
Ouais, je l'ai emmené, ouais. Donc, c'est un vendange tardif de Gewürz et de Pinot Gris de 2018. C'est encore nature.
Donc, ça, c'est... Ça, tu réconcilies tout le monde avec les vendanges tardives, hein.
Bah ouais, en fait, une petite bulle, c'est super facile à boire. T'es plus sur les sucres en excès. Là.
C'est vachement frais.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et je trouve qu'il est même pas... là, on est en hiver. C'est plus un pétnat d'hiver, mais vraiment cocooning. Mmh. Alors que Renette, c'est peut-être plus pour l'été, ouais. Pour funky. C'est top, mais c'est ce qu'il faut. Ouais. Mais encore une fois, on a cet équilibre qui, moi, me fait toujours un petit peu peur quand on parle de vendanges tardives, etc. Mais ce dont je suis de plus en plus séduit, on va un jour arrêter d'en parler, de cette peur, c'est l'équilibre entre les arômes et le sucre. Mmh. Et là, il y a un peu de sucre résiduel, combien?
Il y a 43 grammes.
Bah après, ça reste des vendanges tardives. Hein.
Ah bah oui.
Bon, en 2021, t'en as pas eu beaucoup, des vendanges tardives.
Non, j'en ai pas fait. Sinon, j'aurais eu plus rien du tout.
Donc là, c'est 2019, 2020
2018.
Ah, 2018. Ah, donc tu les laisses vieillir.
Ouais. Bah en fait, qu'ils s'équilibrent en cube. Mm. Naturellement. Donc s'il y a vraiment des fermentations importantes à faire ou quoi que ce soit, bah, ou des problèmes, j'en sais rien, quoi.
Mais ça c'est très très bon. C'est un peu le problème des salons, c'est que on boit beaucoup de choses, mais ouais, des étiquettes, hein, tout de suite on fait rapprochement. Ouais. Mais c'est vrai que le vin en lui-même, on en boit trop dans les salons, donc forcément on oublie un petit peu. Mais ouais, je suis assez content de redécouvrir ça puisque j'avais déjà goûté. Mais encore une fois, on retrouve ce marqueur que je retrouve depuis le début, le côté velours, satin, cette caresse. Moi j'aime beaucoup les effets de tes vins en fait. C'est comme dirait l'autre, c'est en fait je trouve que t'as des vins très érotiques en fait.
Ouais. C'est rigolo.
ce que tu dis, il y en a, ils disent c'est sexy, ouais, c'est ce côté facile.
Justement, avant l'amour, tu bois quoi?
Eh ben, de tout.
Je t'avoue que...
Tu bois la gueule avant ou...
Non. Non, bah, j'irai une bulle.
Une bulle, ok.
J'irai une bulle.
Après l'amour?
Voilà, quelque chose de plus posé, quoi, de plus... Bon, je dirais un rouge, quoi.
Un rouge?
Ouais.
Non, je suis plutôt schnapps.
Après,
ouais. Un petit
schnapps. Je suis pas trop, schnapps.
Non, moi c'est, je commence par de l'eau et après on attaque.
Ah oui, comme ça. Okay.
Mmh. Ouais, c'est plutôt intéressant. Ouais, ouais. Un petit spirale après l'amour, c'est sympa. Si la personne avec qui tu es, c'est boire aussi, c'est encore mieux.
Ouais, c'est sûr.
Ça arrive pas tout le temps. Bref, refermons les parenthèses. Mais quand on parle un peu des routines de gastronomie, etc., tu m'emmènes manger où? À Saint-Hippolyte, où est-ce qu'on mange?
Alors, sur Saint-Hippolyte, là où on mange très bien, c'est au parc à Saint-Hippolyte,
okay.
Qui est une biche tube
ouais.
Très accessible et c'est vraiment porté sur la gastronomie. Quoi.
Mmh, une belle carte des vins?
Carte des vins, non, c'est pas génial.
Ok.
C'est pas génial, c'est un peu dommage. Mais sinon, ils font des cuisines très bien.
Ok.
Mais comme dit sur Saint-Hippolyte, à part le Upsap Fanala maintenant qui commence à mettre des vins nature à la carte, ça reste encore très.
Est-ce que c'est vrai que vous avez combien de gîtes? 4?
Alors, nous, on a 4 chambres.
Donc, si les gens cet été veulent se promener ou être en vacances, ils peuvent venir en vacances ici,
ouais.
Et rencontrer des vignerons à gauche à droite.
C'est ça.
Ils peuvent goûter des vins.
Ouais, carrément.
Ouais. Ouais. Non, mais profitez-en. On va essayer là pour préparer l'été, vous donner quelques tips où manger. Justement, sinon, à part Saint-Hippolyte, c'est quoi ton restaurant de prédilection?
Qu'on va dire, j'ai mes petites habitudes, quoi. J'ai mes petites habitudes d'aller dans le coin, dans les petites vignes tubes. Je préfère en fait quand c'est plus à la bonne franquette, quoi.
Compliqué. Pas trop resto gastro.
Non, je suis pas trop.
Ouais, ça va être trop ton truc.
Même si j'ai plaisir à manger, mais j'ai toujours fait en sortant d'un restaurant gastronomique et je suis pas à l'aise en fait. Ça manque un peu de côté des contrats. Mais ouais, sinon à côté de ça, de dire comme quoi j'ai vraiment un resto préféré aujourd'hui, non.
Parfait. On passe au dernier vin avant de clore cet épisode. Je calcule même plus. D'ailleurs, il a le même nom que. Bon, c'est pas toujours faux. Oula! Ouh, la couleur me plaît déjà.
Alors là, pour le coup, la Quinta, c'est donc un pinot noir vendange tardive. Et donc là, on a fait une macération égrappée pendant 3 mois.
C'est un Porto, c'est pas...
Ah oui, c'est un Porto. Ouais.
C'est... On a le côté bien caramel, bien bonbon, bien, bien torréfié.
C'est ça.
Comment c'est une envie de teint, parce que c'est vrai que on parle souvent de vendanges tardives, mais on n'a pas l'habitude de voir des vendanges tardives de pinot noir en Alsace. On a le Riefsalt, ça c'est un peu plus connu.
Ouais.
Mais je crois que t'es un des, enfin moi j'en connais pas d'autres.
Bah moi non plus. Mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait. C'est simplement parce que à l'époque de mes grands-parents. Il y a ma grand-mère qui avait oublié une parcelle de pinot noir, enfin des pointes,
okay.
Un petit morceau de parcelle.
Ouais.
Puis finalement, ils se sont rendus compte assez tardivement, donc ils l'ont vendangé et puis ils en ont fait une petite cuvée de pinot noir vendange tardive. Donc ça, je te parle, il y a 30 ans, quoi. Et donc, ils ont appelé ça la cuvée Montmartre et puis...
je voulais remettre un peu en valeur cette cuvée qui avait bien plu pour avoir son originalité, quoi, on va dire. Et donc, en 2017, on était dans les vignes sur le Lagunberg et puis on s'est dit, l'été indien est parfait, l'état sanitaire est parfait. Tiens, on va laisser une parcelle. Donc, on a laissé quand même 50 hectares, quoi. Mmh. Et donc on a laissé cette parcelle mûrir. Donc, le potentiel, c'était... On était à 20... Je ne sais plus. 21, un truc comme ça de potentiel, quoi. Mmh. Et donc... C'est vraiment pour mettre en avant l'idée des grands-parents, quoi.
Et je trouve que l'idée est très bonne. Je trouve que c'est même très bon. C'est moins sucré que je le pensais. On est vraiment
Pourtant, c'est quand même très sucré. Il y a encore beaucoup de sucre résiduel.
Ouais, mais je trouve que...
Ouais, tu sens pas trop.
Encore une fois, l'équilibre est là.
Ouais, c'est ça, l'équilibre est là.
Encore une fois, le velours est là.
C'est ça.
Ce
qui est fou, c'est que moi, je me souviens, quand je l'ai rentré, on m'a dit, mais ça, il faut que tu sulfites, sinon ça va partir en latte, direct.
Ben non.
Et je ne l'ai jamais sulfité. Et c'est monté naturellement à 17 degrés d'alcool. Et puis, il reste en sucre.
Ça tient longtemps au vert ?
Ça ?
Ouais.
Ça, tu peux le laisser 2 mois au vert, ça ne bouge plus. Indestructible.
C'est top.
Ouais, indestructible. Tout ce qui va se passer, ça va un peu tuer, comme tu le vois. Mmh. Quand tu ouvres la bouteille, tu as un côté beaucoup plus rubis au niveau de la couleur.
Ouais.
Et la seule chose qui se passe après ouverture, c'est qu'il met un peu de tuiler. Mais au niveau aromatique et en bouche...
Vraiment, c'est un vin qui me laissait... j'avais vu ça et je t'avais même prêté des origines espagnoles. Enfin, je me suis dit, putain, pourquoi une consonance espagnole c'est là où on voit qu'en Alsace, vous essayez d'écarter les murs plus. Mmh. Entre les vinifs, les noms un peu... les noms des lieux assumés et raison. Mais justement, pourquoi ce nom-là ?
Alors, la Quinta, ça veut dire la parcelle, ouais. En portugais. Un nom portugais parce que ça fait penser à du Porto.
C'est du portugais, pas de l'espagnol, autant pour moi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, Quinta das Cabras, c'est la parcelle des chèvres.
Donc, okay.
Le Lagunberg, avant, s'appelait la Geisberg.
Ok.
Enfin, le Geisberg, pardon. Donc, la montagne des chèvres.
Oui.
Et donc, pour dire la parcelle des chèvres en portugais, c'était la Quinta das Cabras.
D'où la Gaïs qui est là-bas sur le Gaïs.
C'est ça, exactement. Ouais.
C'est aussi une de tes cuvées de prédilection.
La Gaïs, ouais.
C'est aussi je trouve qu'on a eu plein de symboles là pendant cette heure et demie qu'on a passé ensemble. Parce que c'est vrai que on est amené à rencontrer beaucoup de vignerons, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de sourires, et que Dieu sait combien j'aime et qu'on aime ces sourires-là, ces moments-là. C'est pour ça aussi que ça fait 2 ans, ça trompe pas, hein, quand on aime les gens, et nous on est tellement fiers, enfin je suis fier de pouvoir vous mettre en avant, et de me lever le matin en disant je vais chez des gens qui sont souriants, qui aiment, qui font, et c'est ce que tu représentes. Tu fais partie de cette nouvelle génération qui est sortie d'un coup, et qui fait les choses bien, et en ça je pense que tu dois être fier de toi. Et que j'observe les gens qui boivent tes vins, parce que forcément quand je suis quelque part et qu'on vend un vin d'Alsace, j'observe toujours le regard des gens, et il y a des gens comme ça que ça ne trompe pas. Mais en fait, souvent on me dit, mais pourquoi tu soutiens autant les Gup, les Müller-Kever, les Einhardt, les machins? Parce que pour moi, il y a des regards qui trompent pas. Et que la vie est trop courte pour se laisser polluer par des gens qui n'ont aucun intérêt. Autant nous la rendre agréable. J'espère que tu as passé un bon moment.
Nickel.
Il y a longtemps que je voulais le faire et je suis content de l'avoir fait. Et je suis surtout content de revenir un jour pour faire ce grand cru. Ouais. Donc, pensez à réserver. Alors, pour les chambres d'hôtes, où est-ce qu'on réserve ?
Soit sur le site internet.
Ok.
Ou alors directement téléphoner au domaine.
Donc n'hésitez pas, et puis on pourra toujours vous aider à faire des circuits, à rencontrer l'Alsace. C'est important parce que on travaille nous avec des vignerons. Moi j'appelle souvent ça des artistes. Aznavour disait qu'un chanteur était pharmacien des âmes. Je suis pas loin de croire que les vignerons nature sont aussi des pharmaciens quelque part des âmes. On n'oublie évidemment pas de saluer Adrien qui coupe du fromage à des kilomètres. C'est vrai qu'il a un peu moins de temps pour le podcast, mais enfin, on peut pas tout faire. On peut pas être et chef d'entreprise et papa, c'est pas possible. À un moment donné, il faut faire des choix et il a bien raison. En tout cas, bah, je te laisse le mot de la fin.
Eh ben, ça m'a fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Depuis le temps que c'était prévu.
Oui. Hein,
plaisir. Et puis, je te remercie en tout cas pour tous les compliments que tu as fait aujourd'hui pour nous, quoi. Et puis, bah, j'espère continuer, en tout cas moi, dans ma dynamique et que tu viendras nous revoir et pour voir les évolutions.
De toute façon, t'as pas le choix.
De toute façon, j'ai pas le choix, oui. Enfin, j'espère qu'on restera tout
bah, ce serait con que tu reviennes en arrière quand même.
Ouais. Bah, oui. tu sais, j'ai toujours peur de ça aussi. Hein. Je me dis qu'à un moment donné, ça marche pas. Enfin,
après, il y a toujours des choses qui vont évoluer. Et après, ouais. c'est toi aussi de suivre les nouveaux, de goûter à gauche, à droite. Et,
c'est ça. Ouais.
Mais vous avez une force de. D'évoluer ensemble, que vous dire de plus? Prenez soin de vous, protégez-vous, buvez pas trop, mais un peu quand même.
Un peu.
Et comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons à Alsace. Eskilt!
Eskilt!
Ciao, ciao!
Ciao!
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.